Une journaliste tuée à coups de pistolet, un ancien agent secret empoisonné à l'aide d'une substance radioactive, mais combien d'autres crimes qui n'ont pas retenu la curiosité des médias occidentaux ? Hommes politiques, banquiers, policiers, malgré la poigne de fer de Poutine, la société russe est chaque jour plus violente. Monsieur X m'a souvent parlé de la Russie, et il n'y a pas encore si longtemps, il a mis l'accent sur la mainmise du pays par les anciens du KGB et son avatar actuel, le FSB. Une opération préparée de longue date depuis l'ère Andropov, c'est-à-dire au début des années 80. C'est ainsi que les guébistes ou les tchéquistes ont conquis peu à peu tous les leviers du pouvoir, le pouvoir politique naturellement, mais aussi la sphère économique. Quant à la presse, elle est muselée, et rares sont encore les journaux indépendants qui peuvent faire preuve d'esprit critique vis-à-vis des institutions officielles. Face à une justice aux ordres et une opinion apathique et chloroformée par les deux premières chaînes de télévision contrôlées par le pouvoir, les assassins peuvent agir en toute impunité. Et si, par exemple, les hommes de main qui ont exécuté la journaliste Anna Politkovskaya ont été identifiés, il est douteux que les commanditaires de ce crime soient jamais retrouvés et donc condamnés. Il en va de même pour les instigateurs de l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko. Monsieur X essaie d'éclaircir certains de ces mystères.
Deux abcès, au moins, empoisonnent la Russie actuelle, l'affaire tchétchène et la corruption généralisée.
Oui, à la suite de la privatisation des grandes entreprises soviétiques.
Bien entendu, oui. Cette privatisation à marche forcée a abouti au bradage de secteurs entiers de l'économie. Et ça a permis aux oligarques, comme on les a appelés, d'amasser en peu de temps des fortunes inimaginables.
D'accord, mais enfin, Poutine est entré en guerre d'ailleurs assez récemment contre ces oligarques.
Contre certains, oui, parce qu'ils avaient des ambitions politiques et se posaient en rivaux. Mais ceux qui ont renoncé à la lutte pour le pouvoir et qui ont alimenté les caisses du parti majoritaire ont été laissés en paix. Et d'ailleurs, faut pas oublier que beaucoup des plus grosses entreprises du pays sont maintenant contrôlées par les anciens du KGB.
Ce sont donc des alliés naturels de Poutine.
Et le chef du Kremlin ne s'est pas oublié, si j'en crois un récent article de Libération. Officiellement, à la tête d'un patrimoine relativement modeste, Poutine serait en réalité, via des fonds offshore, un des hommes les plus riches d'Europe.
Oui, mais vous utilisez le conditionnel, hein ?
Bien obligé. Encore que le politologue russe qui est à l'origine de ces révélations a pu rendre publique cette information à plusieurs reprises, sans être démenti ni poursuivi. Mais, enfin, ça c'était une parenthèse.
D'accord.
Autre conséquence de cette corruption galopante, c'est une autre sorte de privatisation. Celle de ce qu'on appelait autrefois en URSS les organes de sécurité.
Oui, c'est-à-dire la police, les services secrets.
Essentiellement le FSB, qui est l'un des services qui a succédé au KGB. Certains membres de ces administrations ne travaillent plus réellement pour l'État, mais pour des intérêts privés. Et ça va très loin, puisque, à l'occasion, ils peuvent aussi se conduire comme des tueurs à gages. Parmi les gens de l'équipe responsable de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, on trouve par exemple 6 policiers et un officier du FSB, selon les premières informations diffusées par le procureur.
Dans ce cas précis, il y a peut-être une volonté d'aboutir.
Certes. Toutefois, dans ce cas-là, la justice était aiguillonnée par les journalistes de Novaya Gazeta qui menaient leurs propres investigations.
Ça, c'était le journal d'Anna Politkovskaya. Hein.
Et on reparlera de cette affaire si vous le voulez bien. Mais dans l'ombre d'autres crimes, il n'y a même pas eu ce début d'enquête. 3 semaines avant la mort de la journaliste, le vice-gouverneur de la Banque centrale, Andrei Koslov, a été assassiné lui aussi. Ce haut fonctionnaire avait le tort de s'attaquer fermement au blanchiment d'argent. Et ça m'étonnerait fort qu'on découvre un jour qui l'a abattu, ou plutôt qui a commandité cet assassinat.
Oui, c'est ça qui compte. C'est pourtant un personnage éminent. Hein.
En effet, le plus haut responsable liquidé depuis le début de l'ère Poutine.
Alors, vous avez dit deux abcès. L'autre abcès, c'est la Tchétchénie.
Oui, notez bien que dans les deux affaires dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'assassinat d'Anna Politkovskaya et l'empoisonnement d'Alexandre Litvinenko, on trouve la Tchétchénie. La Tchétchénie qui, faut pas l'oublier, a permis à Vladimir Poutine de gravir les échelons du pouvoir.
Oui, en réactivant le conflit.
C'est exact. Comme elle avait déjà permis au président Eltsine d'être réélu en 1996. Et aujourd'hui, alors que les prochaines élections présidentielles et législatives se profilent en Russie, il est tout à fait possible que le pouvoir à nouveau provoque une crise dans le Caucase.
Ah bon, mais où alors cette fois ?
En Ingouchie.
Expliquez là.
L'Ingouchie, comme vous le savez, est une république voisine de la Tchétchénie. et comme elle, elle fait partie de la Fédération de Russie.
Et elle est majoritairement peuplée de musulmans.
Hein. Oui, tout comme sa voisine. Or, une guérilla islamiste y sévit plus ou moins. Il est évident qu'à l'origine de ces troubles, on trouve l'exemple tchétchène. D'autant que de nombreux Tchétchènes, fuyant leur pays en guerre, ont trouvé refuge dans cette république sœur. Par conséquent, Moscou surveille la situation de très près. Et il y a déjà envoyé des troupes du ministère de l'Intérieur et des éléments armés de l'UFSB. Le Kremlin a même fait de l'Ingouchi une zone d'opération antiterroriste, ce qui permet tous les excès.
Les exactions, vous voulez dire?
Naturellement. La soldatesque russe brutalise, enlève, assassine et ne fait pas bon résister ou s'opposer, ni même enquêter sur ces violences. Un Ingouche, officier du FSB, envoyé pour faire la lumière sur des cas de disparition, a été abattu à peine arrivé dans son pays natal. Quant à un autre enfant du pays, un magistrat, il a été enlevé et nul ne sait ce qu'il est devenu. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera sans doute pas, que la République d'Ingouchie est dirigée par un général du FSB, qui est un ami personnel de Vladimir Poutine.
D'accord, mais à quoi riment ces violences alors?
À l'évidence, le Kremlin, en exacerbant ses troubles, et même parfois en les créant, entend montrer à l'électorat russe qu'il continue à mener une lutte sans concession contre le terrorisme et sa composante islamiste.
Comme George Bush, au fond, alors.
C'est vrai que la comparaison n'est pas dénuée de fondement. Et puis, d'un point de vue purement démagogique, Poutine joue sur du velours, tant il existe désormais en Russie un véritable sentiment raciste à l'égard des peuples caucasiens.
Du bronzé, quoi.
Ou des noirs, c'est ainsi qu'on les nomme à Moscou et ailleurs, où ils font parfois l'objet de discrimination et même de véritables ratonnades de la part de voyous ou de skinheads.
Et surtout, depuis les événements de Tchétchénie.
Naturellement. D'un autre côté, il faut aussi voir que l'Ingouchie, comme sa voisine tchétchène, a une frontière commune avec la Géorgie. Or, depuis la révolution de 2003 et la chute du président Chevardnadze, ce dernier pays est devenu la bête noire de Moscou.
Oui, parce qu'il s'est tourné vers l'Occident.
On considère même que la Géorgie est un bastion avancé de l'Ouest au sein de l'ancien empire soviétique. Alors le Kremlin, qui soutient directement les séparatistes abkhazes et ossètes, n'hésite pas à provoquer des incidents frontaliers avec les autorités de Tbilissi et pratique à l'intérieur de la Fédération de Russie un véritable ostracisme vis-à-vis des Géorgiens, dont beaucoup ont été renvoyés chez eux.
Oui, mais c'est un jeu dangereux. Hein.
Et qui pourrait bien un jour déboucher sur une déstabilisation de toute la région. Car le cycle rébellion-représailles est difficilement contrôlable et ne peut que fabriquer des islamistes encore plus radicaux. D'autant que les forces de sécurité semblent se livrer là-bas à de véritables provocations. En tout cas, c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui en Ingouchie rappelle étrangement ce qui s'est passé en Tchétchénie en 1994.
Oui, lors du premier conflit, donc.
Boris Eltsine était alors menacé. On pouvait légitimement penser qu'aux prochaines élections législatives, et surtout à l'élection présidentielle de 1996, le clan Eltsine subirait une cuisante défaite. On prévoyait même une victoire des communistes.
Mais je vous arrête tout de suite, là, parce que vous parlez de comparaison. Poutine et son parti ne sont aujourd'hui nullement menacés. On peut même penser que le maître du Kremlin va réussir son tour de passe-passe. Là.
Ouais, devenir Premier ministre sous un président Potiche.
Ouais.
Vous avez raison. L'opinion lui est acquise et l'opposition, très divisée et empêchée de s'exprimer par tous les moyens, n'est pas en mesure de s'imposer. Il n'empêche que lorsqu'une échéance électorale se présente, il n'est jamais inutile de mettre tous les atouts dans son jeu. Et puis, derrière, il y a la volonté de Poutine de durcir toujours plus le régime. Poutine qui n'a jamais fait mystère de sa nostalgie d'une URSS puissante et qui pouvait en imposer à l'Occident.
Ouais. D'où ces réactions très violentes, hein, dès qu'un pays ex-soviétique tente d'échapper à la sphère d'influence de la Russie.
Comme la Géorgie ou l'Ukraine. Alors reprenons. En 1994, Eltsine se lance dans la guerre en Tchétchénie, pour se refaire une santé en se posant en champion de l'intégrité de la Russie.
Alors même qu'il est le principal artisan de la désintégration de l'Empire soviétique.
C'est juste, mais enfin, peu importe. L'argument fait mouche. Dans un pays déboussolé, appauvri et qui a perdu de sa superbe, on ne fait jamais appel en vain à la fierté nationale. Et même carrément au nationalisme. Parallèlement, la propagande orchestrée par les services secrets se met de la partie.
Et quels arguments alors?
Oh, des insinuations très classiques qui, à la lumière des événements actuels, ont un air de déjà-vu. On prétend par exemple qu'on aurait repéré en Tchétchénie des concentrations de groupes terroristes mêlant extrémistes de droite turque.
Les fameux loubris, là.
Et aussi des moudjahidines afghans.
Rien de nouveau sous le soleil.
Non. D'autre part, on aurait aussi vu en Tchétchénie des mercenaires arrivés des républiques caucasiennes voisines. Bref. il faut au plus vite juguler ce qui pourrait bien devenir une explosion générale dans le Caucase.
Oui, c'est ainsi qu'on justifie la nécessité de faire cette première guerre.
Et puis il y a le pipeline. 150 kilomètres de tubes qui traversent la Tchétchénie et acheminent le pétrole de la Caspienne vers la mer Noire.
Ouais, un oléoduc stratégique.
Et qui est souvent piraté par la mafia tchétchène. Par conséquent, la sécurisation de ce pipeline vaut bien des sacrifices. Et même une guerre qui fera des milliers de morts. C'est pourquoi, en 1995, l'historien Karel Bartak peut évoquer dans un numéro du Monde diplomatique de 1995 le pari sanglant de Boris Eltsine.
Anna Politkovskaya, dont M. X va reparler, a été l'une des critiques les plus lucides du système Poutine. Et voici ce qu'elle répondait quand on lui demandait pourquoi elle n'aimait pas Poutine. « Parce que je ne veux pas vivre dans un état raciste où il est mortellement dangereux d'être un Tchétchène, un Géorgien, un Noir, un autre. Je ne veux pas vivre dans un état où le pouvoir, qui ne reconnaît aucune de ses erreurs, est à la recherche d'ennemis intérieurs ou extérieurs. » Les gens qui démontrent leur opposition au régime sont ouvertement traités d'ennemis intérieurs. Ils sont persécutés, contraints à l'exil, assassinés. D'ailleurs, le plus gros de tout cela se passe en province et pas à Moscou. Et faire de l'opposition en province, c'est être un héros. Pour ce qui est de l'ennemi extérieur, la propagande anti-occidentale et surtout anti-américaine bat son plein. Je ne veux pas vivre dans un État qui est en pleine régression antidémocratique, qui retombe dans le stalinisme. La tendance s'est bien dessinée avec les célébrations du 60e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. On réécrit sans vergogne l'histoire. On affirme de nouveau que l'occupation des pays baltes et le pacte Molotov-Ribbentrop étaient des mesures correctes et indispensables. Ce texte et bien d'autres a été publié dans un livre hommage à la journaliste récemment édité par Buchet-Chastel.
Vous pensez peut-être que je m'éloigne, mais je crois que ce retour en arrière est nécessaire si l'on veut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Russie et qui a débouché sur l'assassinat de la journaliste la plus célèbre du pays et le spectaculaire empoisonnement d'Alexandre Litvinenko. Alors je reprends. La guerre commence par d'intenses bombardements sur la
première guerre de Tchétchénie.
Hein, oui, c'est ouais. Ça, oui. Donc, elle commence par d'intenses bombardements sur la capitale tchétchène, Grozny. Les Russes savent que s'ils s'engagent dans des combats de rue, ils auront de très lourdes pertes. En plus, l'armée rouge n'est plus ce qu'elle était. Hein. Le moral des troupes est au plus bas et la désorganisation générale...
Ouais. Alors, il vaut mieux donc frapper à distance, c'est
oui,
ça ?
Oui, quitte ouais. À provoquer de véritables carnages. Sans pour autant que la communauté internationale s'émeuve. Seuls quelques pays musulmans protestent. Et aussi des républiques ex-soviétiques d'Asie centrale. Mais à l'ouest, silence. Non, on considère généralement que les Russes règlent à leur façon un problème intérieur.
Mais pas d'ingérence, donc.
D'autant qu'à Moscou, on ne s'est pas privé de faire savoir à Washington que si Boris Eltsine ne gagnait pas les élections, les communistes reviendraient au pouvoir. Un tel argument ne pouvait pas inciter les Américains à bouger, même diplomatiquement. Pire, ils ont même insisté pour que le FMI, le Fonds monétaire international, accorde à Moscou un prêt de 50 milliards de dollars.
Une somme qui sera... détourné en partie par le clan Eltsine.
Évidemment. Quant aux Européens, au moment où la guerre fait rage en Tchétchénie, ils acceptent la candidature russe au Conseil de l'Europe.
Ça signifie par conséquent que les Russes peuvent faire à peu près n'importe quoi en Tchétchénie.
Oui, on leur laisse les mains libres. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont arriver facilement à bout des Tchétchènes. Comme les Américains le feront plus tard en Irak, après la chute de Saddam Hussein. Ils ont envisagé une guerre courte et victorieuse. Et c'est vrai que devant le puissant rouleau compresseur russe, les guerriers tchétchènes, mal équipés, semblaient ne pas peser lourd. Mais c'était faire fi de leur courage et de leur détermination. Et pourtant, vous devez le savoir, les militaires russes ont usé de tous les moyens pour vaincre.
Et pas des moyens les plus honorables.
Non, non. Torture, pillage, exécution sommaire, massacre de populations civiles ont été le lot quotidien des Tchétchènes pendant ces 2 années de guerre. On estime que ce conflit fera au total plus de 100 000 morts.
C'est énorme, d'autant que les Tchétchènes sont moins d'un million, je crois.
En effet. Ouais. En avril 1996, le président indépendantiste Dudaïev est tué par un missile.
Il a été localisé par son téléphone satellitaire.
Le chef tchétchène qui lui succède engage des pourparlers avec le Kremlin. Un cessez-le-feu est même signé. mais il n'est pas respecté par l'armée russe. Et ce n'est sans doute pas un hasard.
Pourquoi ?
Parce que l'élection présidentielle russe est maintenant toute proche, et que Etienne ne peut apparaître aux yeux de l'opinion publique comme un vaincu. Curieusement aussi, quelques jours avant le scrutin, une bombe éclate dans le métro de Moscou.
Curieusement, hein ?
Oui, car le procédé resservira plus tard en 1999. Il s'agit clairement de faire peur. Au fond, en faisant éclater leur bombe, les terroristes, quels qu'ils soient, ont voté Eltsine. Eltsine qui va remporter difficilement le premier tour grâce aux centaines de millions de dollars apportés par les oligarques.
Il gagnera au second tour.
Oui. Ouais.
Mais sur le terrain ?
Ah ben les combats ont repris, l'aviation russe pilonne des villages et procède à de nouveaux massacres. Et là, il se passe un événement tout simplement incroyable. Les Tchétchènes annoncent qu'ils vont reprendre leur capitale, Grozny. Et c'est ce qu'ils font effectivement au mois d'août. Ils chassent les Russes, Moscou est désormais obligé de faire la paix.
Mais pour Eltsine, l'essentiel c'est qu'il ait été réélu. Hein.
Bien entendu.
Ouais. Et c'est le général Yebed qui va conclure cette paix.
Yebed qui est très populaire et qui, après avoir obtenu un bon score à l'élection présidentielle, s'est rangé du côté d'Eltsine. La paix est donc signée. Le traité prévoit un retrait des forces russes, la tenue d'élections et l'organisation d'un référendum en 2001. Mais tous les germes d'un nouveau conflit existent déjà. L'armée russe, humiliée, voudra tôt ou tard prendre sa revanche. Et dans le camp tchétchène, on a vu se dresser des chefs de guerre redoutables.
Des hommes qui, au nom de l'islam, n'accepteront aucun compromis avec Moscou.
Et qui ont bien l'intention de mettre le pays en coupe réglée. Il en résultera un profond chaos orchestré à nouveau par les Russes. Une situation explosive, qui sera un peu plus tard habilement exploité par Vladimir Poutine.
Mais n'allons pas trop vite, n'est-ce pas ?
Ouf, je ne relève même pas. Pendant les 3 années de paix qui se succèdent, les Tchétchènes retournent bientôt à leurs vieux démons.
C'est-à-dire ?
La division, et aussi le banditisme. Alors, voyons tout cela dans le détail. La division, d'abord. Dans les mois qui suivent la signature de la paix, la plus grande confusion règne en Tchétchénie. L'armée indépendantiste qui a chassé l'envahisseur russe redevient bientôt une multitude de clans dirigés par des chefs de guerre. Des hommes qui n'agissent qu'en fonction de leurs propres intérêts et qui pillent ce qui reste encore à piller.
Les chefs de gang, quoi.
Et il faut remarquer qu'en 1996, à la fin de la guerre, les Russes se sont empressés de libérer les criminels tchétchènes qui se trouvaient retenus dans leur prison. À une condition, qu'ils regagnent aussitôt leur patrie.
Ah, et pour vous, ce n'était pas tout à fait innocent.
Ah, bah, la manœuvre était claire. Il s'agissait de criminaliser encore un peu plus une société tchétchène déjà pas mal atteinte par ce fléau. C'est ainsi qu'on va voir apparaître une véritable industrie de la prise d'otages. Ces raptes crapuleux, qui se traduisent par le versement de fortes rançons, sont habillés de vagues justifications politiques. Mais la plupart du temps, il ne s'agit que de banditisme. Sinon, comment expliquer le rapt de membres d'organisations humanitaires ou de journalistes occidentaux ?
Oui. Les Français en particulier seront enlevés. Hein,
c'est ouais. Vrai, c'est vrai. Et bien qu'on ait toujours démenti qu'il y ait eu versement d'une rançon, je suis persuadé du contraire. Mais il y aura encore plus grave. En décembre 1998, 4 otages occidentaux, des techniciens des télécommunications, seront retrouvés décapités.
Oui, les ravisseurs ont ainsi voulu donner un avertissement à ceux qui refusaient de verser des rançons.
C'est vraisemblable. Mais le président tchétchène, Maskhadov, accusera les bandits d'être manipulés par des services étrangers.
Les Russes ?
Maskhadov ne le dit pas. Enfin, c'est clair.
Oui, votre avis ?
Bon, ce n'est pas impossible. Les Russes avaient intérêt à noircir le tableau en Tchétchénie.
Ouais. Afin de justifier une intervention ultérieure ?
Je le pense. Et c'est ici qu'apparaît un oligarque qui entretient des rapports très étroits et même un peu étranges avec la Tchétchénie.
Et Boris Berezovsky.
Oui. Ouais.
Le Rasputin du Kremlin, comme on l'a appelé.
Et le futur protecteur d'Alexandre Litvinenko.
Mais pourquoi avez-vous parlé de rapports étranges ?
Et même d'équivoques. Parce qu'on ne sait pas si cet homme d'affaires richissime a été un ami des Tchétchènes. Ou si, au contraire, il a contribué à les précipiter dans l'aventure. Et donc dans un nouveau drame.
Qui est Boris Berezovsky ? J'emprunte ces quelques lignes à un journaliste américain d'origine russe, Paul Klemnikov, auteur d'une biographie sans concession de l'oligarque, éditeur de la version russe du magazine Forbes. Le succès de Berezovsky est dû à son extraordinaire intelligence. Dans les années 90, il était sans doute le plus puissant politiquement, mais aussi, à un moment donné, probablement le plus riche. Il a joué un rôle très important en tant qu'architecte du régime eltsinien avec sa corruption institutionnalisée. Vous ne trouverez pas un autre oligarque dont le chemin soit parsemé de tant de violences et de cadavres, de tant de morts étranges. Khlebnikov sera lui-même abattu en 2004 en sortant de son bureau. C'était le 12e journaliste à être assassiné depuis l'an 2000.
Alors voyons d'un peu plus près le parcours de Berezovsky. Il est né en 1946 dans une famille juive de l'intelligentsia moscovite. Il grandit à Moscou, reçoit une excellente éducation, puis fait des études supérieures d'électronique et d'informatique dans l'un des principaux instituts scientifiques secrets de l'URSS. Ensuite, il poursuit son cursus au département de mathématiques appliquées de l'Université de Moscou, où il obtient un doctorat d'État.
Ah, c'est donc un homme du sérail.
Oui, un très bon scientifique. Oui. Ça lui permet d'être nommé à la tête de l'un des labos de l'Institut de gestion, spécialisé dans les questions d'automatisation et les systèmes informatiques destinés aux entreprises. Il fait alors partie de l'élite scientifique et industrielle du pays. Mais c'est dans le secteur automobile qu'il va réellement percer. Dès 1989, c'est-à-dire sous Gorbatchev, il s'intéresse aux plus grands fabricants de voitures du RSS. Avtovaz, Berezovsky, propose d'informatiser ses usines. Et bientôt, il crée une société destinée à vendre à Avtovaz des logiciels d'automatisation.
Eh ben, voilà un homme entreprenant qui profite des nouvelles possibilités offertes par la libéralisation du régime.
Mais ce n'est qu'un début. Car avec la fin du système soviétique, les petits malins vont pouvoir faire fortune. Il faut noter au passage que l'industrie automobile est alors l'une des branches du secteur industriel les plus criminalisées.
La mafia, quoi.
La mafia rouge, d'abord, celle qui trafiquait avec la bénédiction des hiérarques communistes. Puis la mafia tout court, où les nouveaux maîtres du pays vont aller chercher leurs parrains et autres hommes de main. En 1993, Berezovsky crée une nouvelle société, AWA, associée à la puissante General Motors américaine. Elle doit fabriquer la voiture la plus populaire du RSS, une sorte de coccinelle. Et c'est une superbe escroquerie.
Et pourquoi ça dit
AWA vend des actions à plus de 100 000 Russes pour environ 50 millions de dollars. On est alors en pleine période de privatisation en Russie. Un an plus tard, tandis que la General Motors, effrayée par le gangstérisme et la corruption régnant au sein de l'industrie automobile russe, se retire du projet, les certificats vendus ont perdu toute valeur.
Mais Berezovsky, lui, a empoché les dollars.
Bien sûr. Ouais. Il rebondit en rachetant une autre société. Entre-temps, il est devenu un grand ami de la famille Etsin, ce qui lui permet de se lancer à la conquête des médias et de devenir propriétaire de l'une des chaînes de télévision les plus importantes de Russie, ORT. Et c'est à cette occasion qu'il connaît ses premiers ennuis.
Racontez, hein.
L'un des présentateurs vedettes de cette chaîne, Vladimir Listiev, est assassiné. La milice, veut embarquer Berezovsky pour l'interroger. Mais quelques gros bras s'opposent à l'entrée des miliciens. Et parmi eux se trouve Alexandre Litvinenko.
Qui à l'époque est un officier du FSB. Hein.
C'est ça.
Ouais. Alors, que fait-il là, une perruque?
Moi, je crois plutôt qu'il fait déjà partie, en dehors de son travail, du petit groupe chargé de protéger l'oligarque.
Litvinenko ne peut donc ignorer les magouilles auxquelles se livre Berezovsky.
C'est certain.
Et alors pourquoi ce... Listiev, c'est ça, là? A-t-il été liquidé?
Directeur de la chaîne ORT, il y a créé le premier un talk show très anti-langue de bois.
Donc pas très gentil pour le pouvoir.
Et Berezovsky, son nouveau patron, n'a peut-être pas apprécié.
Mais bon, quand même de là à le faire tuer...
Oui, vous avez raison, mais il n'empêche que Berezovsky a été très sérieusement soupçonné et qu'il a préféré prendre quelque temps le large. À Londres. Berezovsky possède aussi en France, sur la Côte d'Azur, une luxueuse demeure. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de continuer à s'enrichir et à exercer un pouvoir de plus en plus grand. Alors, les affaires d'abord. L'oligarque, qui est vraiment très intelligent, a compris qu'il n'était pas nécessaire d'acheter une entreprise pour la contrôler. Elle pouvait rester entre les mains de l'État. Il suffisait d'assumer sa gestion et de canaliser ensuite ses bénéfices.
Ça en est fait très astucieux.
Et c'est ainsi qu'il procède avec la compagnie Aeroflot, dont il accélérera la privatisation à son profit. Mais il aborde aussi le domaine du pétrole, en s'appropriant avec son compère Roman Abramovitch la compagnie Sibnet. Il se construit donc une énorme fortune. On dira même à la fin des années 90 qu'il est devenu l'homme le plus riche de Russie.
Oui, dans un pays qui ne manque pas de milliardaires.
En même temps, il poursuit son ascension politique. proche de la famille Etsim, qui a entrepris, elle aussi, de mettre le pays en coupe réglée, il se fait nommer, en 1996, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité à la place du général Yebet, tombé en disgrâce.
Il s'agit donc alors de sa première fonction politique.
Et c'est particulièrement important pour notre récit, car, à ce titre, Berezovski est chargé des relations avec la Tchétchénie, ou plutôt, comme il l'a toujours prétendu, de la reconstruction de l'économie tchétchène, ruinée par la Première Guerre. C'est aussi l'époque, il faut le souligner, où Boris Eltsine a subi une grave opération cardiaque et demeurera alité un très long moment.
Ah oui, et quand le chat n'est pas là...
Exactement. Les oligarques en prennent à leur aise. Et un peu plus tard, Berezovski devient le patron de ce conseil de sécurité.
Ah oui, il n'est plus adjoint.
Et à ce titre, il occupe une fonction très importante. Et c'est lui qui glissera à l'oreille de Boris Eltsine le nom de Vladimir Poutine pour occuper le poste éminemment stratégique de directeur du FSB. Enfin, revenons un petit peu en arrière. En 1998, Alexandre Litvinenko, toujours lieutenant-colonel du FSB, mais placé sur une voie de garage, donne une curieuse et inédite conférence de presse. Entouré de quelques-uns de ses collègues, dont l'un est en cagoulé, il dénonce son service.
Le FSB, donc.
Et il n'y va pas par quatre chemins. Il affirme que ses supérieurs, en 1997, lui ont ordonné d'éliminer Boris Berezovski.
Mais il a refusé, forcément.
Ce qui lui a valu de subir maintes pressions et même une tentative d'assassinat.
Est-ce qu'il accuse alors nommément ses chefs ?
Tout à fait. L'un d'eux lui aurait même violemment reproché de ne pas avoir liquidé ce juif qui a volé la moitié du pays.
Berezovski, donc.
Naturellement.
Ouais. L'accusation est terrible, mais est-elle crédible ?
Pas trop, non. Car beaucoup de gens savent que Litvinenko est déjà depuis assez longtemps un homme de Berezovski.
Par conséquent, l'accusation a pu être directement inspirée par l'oligarque ?
C'est possible.
Mais alors, dans ce cas-là, quel but poursuit-il ?
Je pense qu'il veut faire le place nette au FSB, au profit de Vladimir Poutine, qu'il a contribué à mettre en selle en usant de son influence auprès du président Eltsine. Il faut dire, et ça vous permettra de mieux comprendre, que les supérieurs accusés par Litvinenko étaient chargés de la lutte contre la criminalité organisée.
Ah, ils pouvaient éventuellement s'intéresser trop près aux affaires de Berezovski.
C'est très probable, car le premier ministre russe était alors Evgeny Primakov.
L'ancien patron du KGB.
En effet. Ouais. Un homme plutôt intègre qui a justement été nommé par Eltsine pour venir à bout de la corruption. Mais quand Primakov finira presque naturellement à mettre son nez dans les affaires douteuses du Kremlin et de la famille, comme on l'appelle...
La famille, c'est la famille Eltsine.
Hein. Il sera prestement remplacé.
Par Poutine.
C'est exact. Et là encore, Berezovski a eu certainement une influence décisive.
Alors au fond, si je vous entends bien, Vladimir Poutine est une création de Berezovski.
C'est absolument vrai. Et ça explique très bien la haine que lui vouera plus tard Poutine.
Et parce que celui-ci ne voudra jamais admettre ou reconnaître qu'il doit son pouvoir à cet oligarque corrompu.
C'est très humain, non?
Oui, si vous voyez les choses comme ça.
Oh, mais je suis sûr que c'est la vérité. En attendant, Berezovski a la plus grande confiance dans Poutine. Et puis surtout, leurs intérêts coïncident. Que veut Poutine? Le pouvoir, encore plus de pouvoir. Et il a compris assez vite que le levier qui lui permettrait de devenir numéro un à la place d'un Boris Eltsine usé et malade, c'était la Tchétchénie. Et justement, si Berezovski a éliminé les généraux du FSB et Primakov, c'était pour avoir les mains libres pour mener les opérations qu'il projetait en Tchétchénie.
Alors nous y voilà, de quoi s'agissait-il ?
Son premier souci, c'était ses visées sur le pétrole. D'abord, bien sûr, la sécurité de cet oléoduc indispensable pour exporter le pétrole de la Gaspienne.
Il avait des intérêts, là ?
Naturellement. Et puis, il y avait la possibilité de découvrir des gisements en Tchétchénie, même. Alors, en tant que membre du Conseil de sécurité spécialement chargé de la Tchétchénie, Berezovski a noué des contacts avec les principales factions tchétchènes. On dit même qu'il aurait joué un rôle important dans cette douteuse industrie des prises d'otages.
Mais de quelle façon alors ?
Bon, servant d'intermédiaire. Il aurait même payé personnellement certaines des rançons, à charge de revanche, bien entendu.
Contre des services qu'on aurait pu lui rendre ensuite.
Et puis, il y avait le prestige qu'il pouvait retirer de ses opérations humanitaires.
Oui, il se donnait le beau rôle, c'est ça.
Peut-être voulait-il aussi faire oublier comment il avait acquis son immense fortune. Je me dépêche parce que l'heure tourne. En Tchétchénie, où le désordre ne cessait de se développer, Berezovski avait choisi son camp, celui d'un chef de guerre, un islamiste radical, Chamil Basayev, nommé en 1998 premier ministre par le président tchétchène, Maskhadov. Il est en effet avéré que le milliardaire lui a maintes fois fait parvenir des sommes très importantes en dollars, et même, semble-t-il, des armes.
Mais pourquoi lui, alors ?
Parce que, à tort ou à raison, Berezovsky pensait que Basseïev pouvait, à terme, s'imposer dans son pays. C'est pourquoi il a poussé ce dernier à se lancer dans une aventure sans risque au Daghestan, autre république de la Fédération de Russie. Une aventure ressentie comme une provocation. Tandis que, parallèlement à Moscou, dans les cuisines du FSB de Vladimir Poutine, on préparait toute une série d'attentats destinés à faire éclater la deuxième guerre de Tchétchénie et permettre l'avènement d'un nouveau chef.
Une dernière question alors. Qu'est-il advenu de Litvinenko après sa conférence de presse là ?
Il a été naturellement viré du FSB et même emprisonné. Mais Poutine et Berezovsky ne l'ont pas oublié. Et à sa libération, il sera même employé par le milliardaire au conseil exécutif de la Fédération russe. Puis il le suivra dans son exil.
Pour terminer, un article de septembre 1999 de la correspondante du Monde, Sophie Schiab, qui confirme plus ou moins les assertions de M. X. Je cite. Selon un proche de Boris Berezovsky, l'un de ses partenaires européens, le but de ce dernier était de provoquer en Russie un chaos dont il attend deux avantages. L'un est de faciliter de nouvelles mainmises sur le gâteau russe. C'est ce qui semble s'être passé juste après le deuxième des attentats attribués aux Tchétchènes et qui en semait la terreur dans la capitale russe. Un homme de Loukoï, la première société pétrolière russe, désormais alliée à M. Berezovsky, s'est emparé de la direction de Transneft, le monopole des oléoducs russes, en faisant simplement intervenir les forces spéciales de la police. Le scandale fut noyé dans la panique qui régnait à Moscou. Le deuxième avantage du chaos est de préparer l'avènement d'un homme fort, choisi par Berezovsky, qui lui garantirait la pérennité de son pouvoir occulte, menacé par les échéances électorales. Un homme que Berezovsky avait déjà choisi, Vladimir Poutine.